N'est-ce pas ? Pas encore ?
Merci. Bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Voilà, donc je vais me présenter très succinctement. Je m'appelle Jean-Claude Chong. Donc, comme vous pouvez le constater, mon père est chinois et ma mère est française. Mon père est arrivé en France dans les années 20, ce qui fait qu'il est dans les, je crois, 20 premiers. Il y avait 20 Chinois, on ne peut pas imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait 20 Chinois à Paris, dont mon père. Voilà, je suis pasteur depuis maintenant presque 40 ans, mais à la retraite depuis 5 ans. Alors, je vais faire très, très attention à ce que je dis, parce que il y a quelque temps, j'étais dans une grande église chinoise à Paris, et il m'avait demandé d'apporter la prédication, et donc il m'avait aussi demandé de me présenter. Et dans ma présentation, j'ai dit que j'étais pasteur retraité, non pratiquant. Et après le culte, je discutais avec un des anciens qui vient me voir et qui me dit mais je suis très content de parler avec vous parce que c'est la première fois que je rencontre un pasteur qui ne croit plus en Dieu. Je dis mais j'ai jamais dit ça moi. Il me dit si vous aviez dit vous étiez plus pratiquant. Donc je m'explique. Je suis retraité non pratiquant. Ça veut dire que j'ai, si vous voulez, j'ai plus d'église, j'ai plus de paroisse à charge, mais je continue quand même à prêcher dans différentes églises à Paris, en France et dans toute la France même. J'ai aussi gardé, comme je le disais tout à l'heure à quelques-uns d'entre vous, les cours. Donc je continue à donner mes cours à l'Institut biblique de Nogent, Bruxelles, à Genève, etc. Et puis je donne aussi quelques conférences à droite, à gauche. Voilà. Donc je suis retraité et j'habite plus Paris ni la banlieue. J'habite maintenant dans un tout petit village de 120 habitants qui est dans le Loiret et qui est coincé entre Orléans et Montargis. Donc vous voyez à peu près où ça se trouve. Ben, à peu près au milieu, il y a un petit village qui s'appelle la Cour-Marigny. Et c'est là que j'habite aujourd'hui. On s'est rapproché de mes beaux-parents, puisque les parents de mon épouse ont 92 ans. Ils sont assez âgés, donc ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. Donc j'aide mon beau-père à jardiner, à bricoler. Joël fait le ménage. Enfin bref, on fait tout ce qu'il faut pour être auprès de mes beaux-parents, puisque moi-même, j'ai perdu mes parents il y a maintenant plusieurs années. Voilà, et je voudrais terminer cette présentation en vous disant que je suis très très heureux d'être avec vous ce matin. Mais ça vous le savez, je pense. Je crois qu'il y a plus de 5 ans qu'on ne s'est pas revus. Donc ça me fait vraiment vraiment plaisir de vous retrouver. Et j'aimerais remercier Dan, remercier aussi le groupe d'anciens et l'église de m'avoir invité ce matin pour être avec vous ce matin. C'est vraiment une très grande joie. Et enfin, je termine en vous apportant les salutations, les gros bisous de Joël qui m'a dit « Surtout, tu embrasses tout le monde ». Alors, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'embrasser tout le monde, mais en tout cas, Joël vous embrasse très fort. Alors, on m'a demandé de vous parler ce matin du Dieu rédempteur. Alors, le sujet, vous le savez, je pense, il est très vaste, pour pas dire immense. Qu'est-ce qu'on peut dire en 20-25 minutes sur Dieu rédempteur ? C'est très très grand. À un moment donné, il faut se fixer pour savoir sur quoi on va parler et surtout où on veut aller. L'idée, c'est que vous ressortiez dans quelques temps en ayant appris quelque chose et en sachant le pourquoi du Dieu qui donne sa vie en Jésus-Christ, la rédemption. Alors, il y a évidemment plein de textes que l'on pourrait lire. Je me suis arrêté à un texte que je vous propose, qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 17 et 18. C'est un texte vraiment important et c'est un texte qui nous donne et nous explique ce qu'est la rédemption pour Dieu. Alors, c'est Jésus qui parle. Et voici ce qu'il dit. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne m'ôte la vie. C'est moi qui la donne. De moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors, ce matin, je vous propose, si vous le voulez bien, ce qui est une formule de politesse, parce que si vous ne voulez pas, on va le faire quand même, je vous propose de mener une enquête. Nous allons essayer de comprendre et nous allons avoir maintenant quatre témoins qui ont tout vu ou qui, comme Luc, ont eux-mêmes mené une enquête très très approfondie et on va constater que chaque évangile est une procédure à la française où on considère la vie de l'accusé pour comprendre l'événement qui a entraîné le procès. Si donc je vais trop vite, ce qui est un peu maladif chez moi, je commence toujours doucement, puis vous allez voir, dans quelques instants, je vais passer la seconde, après la troisième, la cinquième, la sixième. C'est un problème avec les étudiants, parce que souvent ils me disent, monsieur, vous pouvez vous calmer, parce que vous allez trop vite, on n'a pas le temps de prendre de notes. Donc, si je vais trop vite, vous me le dites, et s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, simplement vous me le dites et je l'expliquerai. Parce que je crois que la prédication, c'est un moment aussi où on peut élever le débat. Hein ? Et donc, peut-être que ce matin, vous allez apprendre des mots théologiques que vous connaîtrez, parce que je vous les aurai expliqués. Quand on regarde les faits, dire pourquoi Jésus est mort semble assez simple. On sait que par sa personnalité, par ses actes, parce qu'il a enfreint les coutumes, parce qu'il faut le dire, Jésus a tenu des propos violents à l'égard d'élite. Je vous rappelle que Jésus a traité l'élite d'hypocrite. Alors aujourd'hui, quand on dit hypocrite, c'est pas grand-chose, c'est pas très sympa, mais c'est pas grand-chose. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on traitait quelqu'un d'hypocrite, c'était très grave. Il les traite aussi de sépulcres blanchis. Jésus, on le sait, a prétendu avoir avec Dieu une relation unique. Jésus a tenu des propos qui n'était pas clair du tout pour les religieux. Jésus dit, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Et les religieux de l'époque ne comprenaient pas ce langage. Ils disaient, mais tu prétends être Dieu? Et on sait que cela a été très violent. Bref, vous l'aurez compris, Jésus va très rapidement se mettre à dos les autorités de Jérusalem. Et elles ont décidé que tout cela justifiait la mort. Seulement, il y a un gros problème pour les religieux, c'est qu'à l'époque, Israël était une colonie romaine. comme la Gaule, vous savez, ce petit village gaulois qui résiste à l'envahisseur. C'est exactement pareil, là. À cette époque, Israël est occupée, elle est une colonie romaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que les autorités locales ont perdu toute autorité pour condamner quelqu'un à mort. Il faut donc très rapidement compromettre Jésus aux yeux des Romains, trouver un motif d'accusation qui va justifier pour Rome une sanction de mise à mort. On va donc accuser Jésus de sédition, de vouloir devenir roi. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous l'avez oublié, qu'au-dessus de la tête de Jésus sur la croix, il y avait ces mots écrits en trois langues, en latin, en grec et en hébreu, « Je suis le roi des Juifs ». On va donc l'accuser de vouloir devenir roi et surtout d'être l'organisateur d'un désordre dangereux pour la Pax Romana, c'est-à-dire pour la paix romaine. Vous savez que quand on accuse quelqu'un, il faut des preuves. Et le problème, c'est que les autorités religieuses n'ont aucune preuve de ce qu'ils annoncent. Alors, à défaut de preuves, les autorités de Jérusalem vont soudoyer des faux témoins. Et l'évangéliste Jean dira même à un moment donné que même les faux témoins se contredisaient l'un l'autre. Comme les Romains ne veulent qu'une chose, que ce soit en France ou dans tous les pays occupés, y compris Israël, comme les Romains veulent la paix, la fameuse Pax Romana, la fameuse paix romaine, comme ils veulent la tranquillité, Jésus va très vite être condamné à la crucifixion. Ok, ça va jusque-là. Ces faits-là sont sûrs. Le problème, c'est qu'on pourrait très bien et très rapidement obtenir un procès en réhabilitation. Mais là, les choses se compliquent. Parce que pour avoir un procès en réhabilitation, c'est comme en France, il faut que quelqu'un fasse la demande. Or, ce qui est intéressant dans notre texte, c'est qu'aucun de ses amis, aucun des disciples, aucun des apôtres va chercher à réhabiliter Jésus. Pire, regardez le texte, aucun va se plaindre de l'injustice et de la malhonnêteté du procès. Ils écrivent des dizaines et des dizaines de lettres. Ils écrivent des dizaines et des dizaines d'épîtres. Et pas une seule fois, ils vont se plaindre d'un procès qui a été truqué. C'est comme si ce point n'avait pour eux aucune importance. Alors, comprenez bien, on avance petit à petit, on est dans le sujet du Dieu rédempteur, hein, là. Les choses se compliquent. Parce que si vous regardez bien le texte, ils ne l'ont pas abandonné. Au contraire, l'Évangile nous dit qu'ils vont se rapprocher de lui, ils vont s'attacher à lui, ils vont s'accrocher à lui après sa mort. Et cette attache sera même plus forte maintenant qu'il est mort que lorsqu'il était vivant. Un grand nombre d'entre eux, pour ne pas dire tous, vont mourir d'une mort violente. Aucun des disciples n'est mort dans son lit. Aucun des disciples n'est mort d'une mort paisible. Ils ont tous, absolument tous, été assassinés. Certains vont mourir crucifiés, la tête en bas. D'autres vont être décapités. D'autres vont être écartelés. D'autres vont être jetés en pâture aux lions. Mais jamais, jamais, au grand jamais, quelqu'un va renoncer à sa foi. Les disciples, malgré l'interdiction, vont continuer à se rassembler. Et ils vont être de plus en plus nombreux. Jamais ils ne vont chercher à renverser l'Empire romain. Jamais ils ne chercheront à venger la mort de Jésus. Jamais ils ne se plaindront du déroulement du procès qui, nous voulons le voir, a été truqué. C'est incompréhensible. Incompréhensible. On ne comprend pas. Et là, pour comprendre pourquoi la mort de Jésus a-t-elle été vécue comme elle l'a été, il faut que nous commencions une seconde enquête. La première enquête portait sur les faits, ils sont simples. La seconde doit porter sur le sens de ces faits. Exactement comment les apôtres, comment les intimes de Jésus ont vécu la mort de leur maître. Qu'est-ce que cette mort représentait pour elle? Pourquoi Dieu a-t-il eu un jour besoin de s'incarner en Jésus-Christ et mourir sur une croix? Y avait-il une autre solution? Pourquoi? Et là, nous devons mener une enquête théologique. Première étape de cette seconde enquête, je vous propose d'écouter comment les amis les plus proches de Jésus en parlent, très très peu de temps après ces événements. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, au verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis, lui, qu'on le relâche. Vous avez renié le saint, le juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, et ceci en présence de vous tous. Les amis de Jésus vont donc poursuivre son activité. Entre autres, ils vont guérir des malades. Et cela étonne la foule. Et Pierre explique la mort de Jésus sans amertume, comme des faits. Et regardez ce qu'il leur dit. Et là, nous entrons dans la rédemption. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Cette mort, elle glorifie Jésus. Glorifier Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'idée ici qui se cache en grec dans cette expression « glorifier Jésus », c'est manifester publiquement la vérité du Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que ça veut dire « glorifier Jésus ». Manifester publiquement la vérité de Dieu en Jésus. Deuxièmement, regardez le texte. Ce Jésus, vous l'avez livré au pouvoir de Rome. Vous l'avez même échangé contre la liberté d'un assassin, Barabbas. Troisièmement, et cela est tout à fait étonnant, regardez ce que Pierre fait. Pierre utilise une expression qui nous surprend. Vous avez tué le prince de la vie. Vous avez tué le pionnier de la vie. Certaines traductions disent. D'autres disent, vous avez tué le maître de la vie. Mais le sens est le même. Vous avez tué celui qui est à l'origine de la vie. Celui qui est la cause de la vie. Et ce que vous avez fait est plus étonnant que ce que vous pensez avoir fait. Parce que vous avez pensé tout simplement que vous étiez en train de condamner un homme, que cet homme vous gênait, vous l'avez condamné et vous l'avez cloué sur une croix. Pourquoi ? Parce qu'il vous dérangeait. Mais celui que vous avez cloué, c'est celui qui est lui-même la source de la vie. Et vous l'avez mis à mort. Et regardez ce que Pierre dit, il dit « vous l'avez tué ». Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Sans cette parole, on ne comprend pas la rédemption. Sans cette parole, il est inutile de parler de rédemption parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sans cette parole, on ne comprend pas pourquoi Jésus est mort. Vous l'avez tué ? Mais Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que les disciples de Jésus se présentent alors comme des témoins. Ils sont les témoins de la résurrection. Ils comprennent la mort de Jésus, non plus comme un enchaînement de circonstances, mais à partir de la résurrection. La mort de Jésus, la rédemption, doit se comprendre à partir de la résurrection, à partir du fait que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pour eux, cette résurrection atteste que ce Jésus était bien Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous. Et au regard de ce que signifie la résurrection, pour les apôtres, les faux témoins, la lâcheté des Romains, la lâcheté de Pilate, tout cela, ça n'est que pacotille. C'est pas intéressant. À la limite, si vous me permettez l'expression, Pierre dit, la lâcheté romaine, la lâcheté, les faux témoins, on s'en fout. Pour nous, c'est pas important. Pour nous, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que Jésus, vous l'avez mis à mort, mais Dieu l'a ressuscité. Parce que là, ce n'est plus un homme, c'est Dieu lui-même qui revient à la vie. Ok ? Ça va ? On continue ? Allons plus loin. Deuxième témoin. Je vous propose une lecture dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1, les versets 2 à 4. Romains chapitre 1, versets 2 à 4. l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans les premières lignes de sa lettre qu'il écrit aux Romains, Paul parle de Jésus. Il écrit « La bonne nouvelle de Dieu concerne son fils, issu de la descendance de David selon la chair, institué fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, du fait de sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Ainsi, et c'est très clair pour les apôtres, la personne de Jésus et le sens de sa mort doivent aussi se comprendre à partir de la résurrection. C'est la résurrection qui va permettre de répondre à la question « Pourquoi Dieu a envoyé son fils ou s'est fait lui-même humain pour mourir sur une croix ? Pourquoi ?» Que la mort de Jésus, quant au fait, résulte d'une machination médiocre, ça n'a plus d'importance. La vérité, maintenant, elle est là. Rappelez-vous le premier texte. Personne ne monte la vie. Hein ? La vérité, elle est là. C'est que Jésus, Dieu, va donner sa vie. Il aurait très bien pu échapper à la mort. Au pied de la croix, des gens se moquaient de Jésus. Ils disaient, mais si t'es le fils de Dieu, descends et on croira en toi. Moi, quand j'étais gamin, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi il n'est pas descendu ? S'il était descendu, tout le monde aurait cru en lui, ça aurait été super. Alors, c'est vrai qu'il y avait des clous qu'il maintenait rivés à la croix. Mais ce n'est pas la cause de la non-descente de la croix. S'il y avait eu que ces clous de fer forgé, il aurait pu descendre. Mais il y avait d'autres clous qui étaient invisibles, qu'il maintenait rivés à la croix. Et un de ces clous, c'est l'amour de Dieu pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire vous et moi, croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est pour cela qu'au défi de descendre, Jésus oppose un silence qui voulait dire « Mais je ne peux pas descendre de la croix. Parce que si je descendais de cette croix, je cesserais de t'aimer. Et je t'aime. Donc je ne peux pas descendre. » Vous saisissez mieux maintenant ? Pourquoi la rédemption ? Alors, allons plus loin. Et essayons d'entrer dans le sens de cette mort. Nous allons maintenant enquêter auprès de l'apôtre Paul. Parce que Paul a beaucoup de choses à dire et c'est tout à fait intéressant. Je vous propose la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et l'apôtre Paul dira, à cause de cela, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Parce que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Prenez le temps de lire ce texte. Prenez le temps de le méditer, ce texte-là, ce verset. Et vous comprendrez la raison véritable, la raison unique de la mort de Jésus, de la rédemption. Pourquoi Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Cette raison, elle est très simple maintenant que nous venons de le voir. À la question « Pourquoi ?», la réponse est « Pour toi ». Pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Voyez, dans ce verset, comme nous sommes importants. Regardez, peut-être que ce matin vous dites, mais moi j'ai aucune importance pour Dieu. Qu'est-ce que je suis moi? Un minus par rapport à Dieu. Mais tu as une importance considérable aux yeux de Dieu. Regarde, regarde le texte. Regarde ce verset comme tu es important. Le saint, le juste, celui qui est sans péché, Dieu l'a fait devenir péché pour toi. Pour toi. Afin que tu deviennes justice de Dieu. Nous sommes au cœur de la raison de l'incarnation. Nous sommes au cœur de la raison de la rédemption. Il est mort pour toi, à ton avantage, à ton profit. Nous sommes tous, autant que nous sommes humains, au bénéfice de sa mort. Alors là, attention. Attention parce que nous disons, à mon avis, trop facilement, Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nous. J'étais pécheur, il est mort à ma place. Tu étais pécheur, il est mort à ta place. C'est trop facile. Quelle relation y a-t-il entre mon péché, donc ton péché, et la mort de Jésus? C'est pas évident. Parce que le péché, qu'est-ce que c'est? On est protestant, on est évangélique. Nous ne sommes pas catholiques. Parce que pour les catholiques, en théologie de la rédemption, il y a deux sortes de péchés, vous le savez. Il y a le péché mortel et il y a le péché véniel. Le péché mortel, tu vas direct en enfer. Le péché véniel, si tu récites deux pâtés, trois avés, tu vas à la cathédrale ou à Rome, etc., tu peux être sauvé si on prie pour toi. Pour nous, chrétiens, un péché, c'est un péché. Il n'y a pas de petit. Il n'y a pas de gros péché. Ça, il faut que tu le comprennes. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Parce que quand tu triches, quand tu mens, quand tu voles, tu pèches. Quand tu tues quelqu'un, tu pèches aussi. Mais pour Dieu, il n'y a aucune différence. Et ça, il faut le comprendre. Il n'y a pas de petit ou grand péché. Un péché est un péché. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu étudies la rédemption, quand tu étudies la raison pour laquelle Dieu se donne en Christ, c'est que le péché aux yeux de Dieu, le péché c'est une agression de la vie. C'est une tentative de destruction de la vie. C'est une blessure que tu infliges à la vie. C'est Dieu que tu blesses. C'est Dieu que tu méprises. Alors, malheureusement, le temps il passe très vite. Il faut qu'on continue. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais on continue. Troisième et dernier témoin, on va prendre un prophète, le prophète Osée. Et je crois que cette lecture va nous aider à mieux comprendre pourquoi Dieu est devenu rédempteur. Au chapitre 11 du prophète Osée, Dieu exprime ce que nous appelons une sorte, et ça va vous surprendre, mais c'est réel, une conversion de Dieu. Dieu se convertit, c'est ce que dit Osée, c'est ce que dit le prophète Osée. Il y a une conversion de Dieu. Dieu décide, malgré l'infidélité de son peuple, de ne pas agir selon sa sainte colère. précisément parce qu'il va dire, malheureusement, ça me fait de la peine de le dire comme ça, mais on n'a pas le temps de lire le chapitre 11. Mais je vous fais confiance, je sais que vous le lirez. Chapitre 11 d'Osée, c'est votre devoir à faire, d'accord? Et vous verrez que Dieu va décider de ne pas agir selon sa colère. Précisément, dit-il, parce que je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Alors nous devons souligner que l'amour, c'est la victoire sur soi-même. L'amour, c'est la victoire sur soi-même. Pourquoi Dieu décide-t-il de pardonner? Parce qu'il aime. L'amour, c'est extraordinaire, l'amour. Aimer, c'est fantastique. J'espère que, si ce n'est pas le cas, un jour vous rencontrerez votre amoureux, votre amoureuse, et là vous l'aimerez, vous découvrirez ce qu'est l'amour. Mais cet amour que vous découvrirez, c'est rien du tout par rapport à l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Dieu nous aime? Dieu a tellement aimé le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tellement aimé le monde? Il t'a tellement aimé quantitativement qu'il a donné sa vie. Il t'a tellement aimé qualitativement. Tu vois la différence? La qualité et la quantité. On a un problème, nous, en France. Parce que on emploie le mot aimer n'importe comment. Et on ne peut pas faire autrement. Ainsi, je dis, j'aime les crevettes. Et vous savez, je crois que j'aime les crevettes. J'aime ma femme. J'aime Dieu. Mais si j'aime ma femme comme j'aime les crevettes, j'ai un gros problème. Si j'aime Dieu comme j'aime ma femme, j'ai un gros problème. Les Grecs n'ont pas ce problème-là, parce qu'il y a trois verbes pour le verbe aimer. Le verbe agapaos, qui veut dire aimer à donner sa vie. Phileo, qui est l'amitié, et eros, qui est l'amour érotique. Ainsi, Jésus demande à Pierre, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Agapaos, es-tu prêt à donner ta vie pour moi? M'aimes-tu jusque-là? Et Pierre répond, oui Seigneur, je t'aime. Philéo. Autrement dit, pour moi, tu es un copain. Vous voyez la différence déjà? Parce que ça, vous ne l'avez pas dans votre français. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pourquoi il lui parle trois fois? Pourquoi il lui demande trois fois? On n'a pas là cette différence. Mais Jésus dit, Pierre, m'aimes-tu? Agapaos. Es-tu prêt à donner ta vie pour moi? Et Pierre répond, oui, Seigneur, je t'aime. Philéo. Pour moi, tu es un pote. C'est tout. Alors Jésus, pour la deuxième fois, lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Agapao. Et Pierre répond pour la deuxième fois, oui, je t'aime, Philéo. Pour moi, tu n'es toujours qu'un copain. Et Jésus va lui dire la troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Philéo. Autrement dit, Pierre, est-ce que je suis pour toi simplement qu'un copain? Et Pierre va répondre, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Philéo. Philéo. On est surpris parce que on penserait que Pierre, qui a compris la leçon, dise oui, Seigneur, tu sais toutes choses. Je t'aime, agapao. Mais il a compris la leçon. Rappelez-vous. Jésus lui dit, Pierre, on monte à Jérusalem. Là, on va m'arrêter. On va m'injurier, on va me cracher dessus. Et puis, on va me clouer sur la croix. Et Pierre dit à Jésus, il dit, c'est pas possible, c'est pas possible, tu mourras pas. Je t'interdis, en grec, il dit, je t'interdis de faire ça. Et Jésus est obligé de lui dire, arrière de moi, Satan, parce que tu mets un scandale. Vous imaginez? il dit à son ami Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que ce n'est pas Pierre qui parle. C'est le péché qui parle. Après, Jésus dit, on va m'arrêter et vous allez tous m'abandonner. Et Pierre, encore une fois, il prend la parole, il dit, ah non, eux, ils peuvent t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et Jésus est obligé de lui dire, tu sais Pierre, avant que le coq chante, tu vas me renier trois fois. Et il va renier Jésus, vous connaissez l'épisode. Et alors, il y a une chose que vous n'avez peut-être pas saisie, et qui est très très importante, c'est que quand le coq va chanter, le regard de Pierre va croiser le regard de Jésus. Vous vous rappelez de ce texte ? Et là, Pierre va sortir et pleurer amèrement. C'est-à-dire qu'il va comprendre. Il va comprendre qui est Jésus. Et il va comprendre que si Jésus est capable de l'aimer agapao, lui, il ne peut pas l'aimer agapao. Il ne peut que l'aimer philéo. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut aimer agapao. Alors, on revient à notre texte. Dieu souligne que l'amour, c'est la victoire sur soi-même. Mais, mes amis, n'appelons pas n'importe quoi l'amour, n'appelons pas n'importe quel sentiment gentil de l'amour. L'amour dont Jean parle ici, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, cet amour existe que dans la victoire sur soi-même. La mort de Jésus, c'est la victoire de Dieu sur lui-même. C'est l'amour de Dieu qui va triompher de sa colère. Ça, c'est la rédemption. La rédemption, c'est ça. Et c'est rien d'autre. Tout ce qu'on peut dire après, c'est du rajout. Alors, on peut rajouter. Mais l'important, c'est ça. La mort de Jésus, c'est la victoire de Dieu lui-même. C'est l'amour de Dieu qui triomphe de sa colère. Alors, il me reste 4 minutes. En 4 minutes, on va essayer de comprendre comment. Comment c'est possible ? Eh bien, regardez le texte. Jésus va prendre sur lui la colère de Dieu. Il va transférer la colère de Dieu sur lui-même. Le salaire du péché, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est la mort. Tu es donc condamné à mort par Dieu. Je suis donc condamné à mort par Dieu. Et ce que va faire Dieu, c'est la rédemption, on est en plein dedans. Ce que va faire Dieu, c'est qu'il va transférer sur lui-même la mort que nous méritons. La croix, vous avez là, la croix, c'est l'expérience de souffrance intime que Dieu va vivre pour toi. Dieu qui est vie, la source de la vie, rappelez-vous, on l'a dit tout à l'heure, Dieu qui est vie va éprouver quelque chose qu'il n'a jamais connu, la mort. Il va éprouver la mort pour toi, pour que tu éprouves la vie. Christ est mort pour toi, pour que tu vives devant Dieu. Christ est mort pour moi, pour que je vive devant Dieu. Et pour que tu vives sans culpabilité, sans crainte. Tu n'as pas à te poser la question de savoir si Dieu va t'aimer, si Dieu t'aime, si Dieu va encore t'aimer. Oui, tu as péché, oui, j'ai péché, mais Dieu m'aime-t-il encore alors ? Bien sûr que oui, parce que l'amour de Dieu triomphe du péché. Je suis, rappelez-vous ce que dit Paul, réconcilié avec Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. Il t'est arrivé un jour de te fâcher avec un copain, avec une copine, peut-être avec tes parents. Et puis un jour, tu t'es réconcilié avec lui, tu t'es réconcilié avec elle. C'est pareil pour Dieu. J'étais fâché avec Dieu. Dieu était fâché avec moi. Mais quand je suis venu à lui, il m'a réconcilié avec lui. Et je termine en disant, regardez, ce que Pierre appelle le saint, Paul dit qu'il a été fait péché pour nous. Peut-être que comme moi, vous ne comprenez que la périphérie de cette réalité. Mais pour les apôtres, la vraie question, c'est pas pourquoi Jésus est-il mort maintenant, mais pour qui ? Et là, chacun de nous doit dire, il est mort pour moi. Ton péché est pardonné. Ta faute est expiée. Dieu te tend les bras. La rédemption de Dieu te donne la vie. C'est toi et toi seul qui décides ce que tu veux en faire. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci d'avoir donné ta vie en Jésus-Christ. Merci, notre Dieu, de nous réconcilier avec toi. Merci pour cette rédemption et merci pour la vie. Gloire te soit rendue, Seigneur, à jamais. Amen.